Donc je suis en compagnie de Pierre Bordage pour le Festival de l'Imaginaire édition 2007. Pour en actualité donc son roman Porteur d'âme, et puis on reviendra un petit peu sur l'enjeu mineur. Pour Porteur d'âme, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire un polar ?
Oh ben, c'était pas l'idée de faire un polar, j'avais pas trop idée du genre qu'allait être le livre. Mon point de départ, ça a été le transfert, la possibilité de transférer une âme ou un esprit dans le corps de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire pendant 4 ou 5 jours de vivre l'expérience, enfin de découvrir, d'explorer l'univers par les yeux, par les expériences de quelqu'un d'autre. Donc c'était ça l'idée de départ. Et qui est un peu tiré, c'est le film Dans la peau de John Malkovich qui m'a donné cette idée de départ. Ouais. C'est-à-dire que j'ai dit, oh, là il y a une idée qui est géniale, qui n'est pas vraiment exploitée dans le livre, parce qu'ils en ont fait une sorte de gag, même de running gag. Et je me suis dit, il y a quelque chose d'extraordinaire à faire avec cette idée. Et je me suis dit, voilà, parce que nous, êtres humains, nous avons une perception subjective de l'univers. C'est-à-dire que nous voyons sans arrêt l'univers par nos yeux. C'est-à-dire que nous sommes nous-mêmes absents de l'univers que nous voyons. Parce que nous... Le point de vision, c'est nous. Et je me dis, finalement, il n'y a aucun être humain qui voit l'univers de la même façon. Et peut-être c'est une des sources des conflits humains, c'est-à-dire que c'est impossible de se mettre à la place de l'autre pour comprendre l'autre et la façon dont il ressent l'univers. Donc c'était ça l'idée. Et après, à partir de cette idée-là, le livre s'est mis en place et la trame s'est installée avec à la fois un personnage qui devient un porteur d'âme, c'est-à-dire quelqu'un qui reçoit l'âme de quelqu'un d'autre, un personnage qui est le voyageur, c'est-à-dire celui qui a les moyens de se payer ses voyages dans le corps de quelqu'un d'autre, et puis un troisième personnage, un flic, qui m'est venu comme ça, parce que c'est mon premier personnage de flic depuis que j'écris, et c'était aussi parce que c'est des personnages qui sont confrontés, même dans la réalité, sans arrêt à la frontière entre du bien et du mal, quoi. Et ils franchissent sans arrêt des lignes, et donc ils ont un regard un peu particulier sur le monde, et je voulais ce regard-là, donc voilà, et ces trois intrigues se sont entrelacées finalement pour faire le roman. Et du coup, ça fait un aspect polar, puisqu'il y a un aspect enquête policière, etc. Et le livre a du coup une tonalité très polardeuse, quoi.
Sur les scènes justement d'affrontement, je vous disais tout à l'heure que c'était des choses qui étaient vraiment crues, très violentes, et vous ne l'aviez pas écrit avec cette arrière-pensée là.
C'est-à-dire que en tant qu'auteur, je suis un principe neutre, enfin je pense. Donc je mets l'écriture au service de la scène. Alors, si la scène. Je me dédouane peut-être un peu vite, mais c'est pourtant vrai, quoi. Je veux dire, peut-être que j'ai un fond de violence en moi qui ressort comme ça par l'écriture, mais je me laisse énormément guider par l'écriture dans mon travail. Et si l'écriture m'emmène dans une scène où il y a une nécessité de violence, je vais y aller carrément, quoi. Je fais pas d'autocensure ou de jugement sur ce qui est en train de se passer, puisque c'est le livre qui est en train de s'écrire à travers moi. S'il s'écrit à travers moi aussi, c'est qu'il a certainement des raisons de le faire et qu'il se sert aussi de ma violence intérieure pour s'écrire. Mais bon, j'ai pas le sentiment en écrivant d'être aussi violent ou essayer de percutant que ça. C'est simplement mon travail, c'est de recueillir le livre par l'écriture et donc d'être le plus efficace possible à ce niveau-là. Et donc, s'il y en a une scène de violence, effectivement, la scène va être le plus violente possible ou le plus saisissante possible, parce qu'elle l'exige tout simplement, et que aussi mon idée dans ce roman, c'était de montrer que le monde est dur parfois, et il est probablement beaucoup plus dur que ce que je peux imaginer dans mes bouquins, et surtout quand on vit dans la marge, dans l'exclusion, dans la clandestinité, comme vit Léonie, le personnage féminin. Voilà, quelque chose qui vient de s'effondrer, mais ne quittez pas, chers auditeurs, tout va bien. Je voulais pas occulter ça, parce que je pense que dans les mondes libéraux tels qu'ils sont présents aujourd'hui, on va vers ces rapports de force, tout simplement, quoi. C'est-à-dire où il y a de moins en moins d'espace pour essayer de ménager les uns et les autres, c'est l'affrontement direct, et c'est ce que j'ai voulu aussi illustrer dans le livre, d'où je pense cette impression de violence.
Le fait de confronter justement la porteuse d'âme qui vit dans un squat, sans papier, et celui qui va faire le voyage, qui lui, dans une super grande école, avec énormément d'argent, c'est vraiment ça sert de critique de la société. Enfin, c'est vraiment le message à faire passer au-delà de...
je pense pas que ce soit... Enfin oui, il y a une critique de la société, enfin une opposition comme toutes les sociétés. Il y a l'opposition des classes, elle a toujours été là, elle existe depuis elle change de nom, mais l'opposition entre riches et pauvres a toujours existé, entre élite et peuple a toujours existé. Bon, c'est aussi, je pense, dans l'histoire entre Cyrian, donc le personnage de bonne famille, riche, sans problème financier, une peu jeunesse dorée, tout ça, et puis Léonie qui est vraiment à l'autre bout de l'échelle, qui est vraiment la clandestine, celle qui n'existe même pas, quoi. Enfin, elle existe que dans les marges. C'était de montrer que l'un et l'autre pouvaient faire un chemin, alors par ce biais-là du transfert d'âme, pouvaient faire un chemin l'un vers l'autre. Et Cyrian a quelque chose, il n'a pas le cynisme de sa classe, et c'est ça qui le sauve finalement, parce qu'on essaie d'en faire un être cynique, hein, par Johannes, qui est son initiateur et qui l'oblige à des expériences très désagréables. Il garde cette espèce de curiosité de l'être humain qui le sauve, quoi. Et quand il va se retrouver dans le corps de Léonie, il va découvrir Léonie, il va vraiment la regarder, il va vraiment aller vers elle. Et je trouve que le chemin de Cyrian est un beau chemin aussi, parce que c'est justement se défaire de son propre conditionnement de classe pour essayer de comprendre quelqu'un d'autre et d'aimer quelqu'un d'autre. Donc lui fait un vrai chemin vers l'autre, un vrai chemin de découverte. Et Léonie, pareillement, fait le chemin le chemin inverse, qui est de la découverte aussi de la personne qui est en elle. Donc c'était vraiment... c'est pour ça que c'est un roman d'amour finalement. Oui, finalement c'est un harlequin, je dis des conneries, tout ça. C'est parce que les personnages vont vraiment l'un vers l'autre en essayant d'avoir un regard sur l'autre qui soit complètement déconditionné. Et or, je pense que c'est encore une fois une des grandes sources des conflits humains, c'est qu'on a toujours un regard conditionné sur l'autre par son propre conditionnement. Son propre conditionnement fait qu'on se croit légitime et on dénie la légitimité aux autres. Or, ils sont aussi légitimes que nous, finalement. Chaque regard est légitime. Et c'est ça que découvrent les personnages en roman, c'est que chaque regard qui existe sur le monde est aussi légitime que le sien. Et le transfert d'âme permet ça.
Au niveau de la façon d'écrire par rapport à l'enjeu mineur, est-ce que ça a été plus simple? Parce que pour l'enjeu mineur, vous m'aviez dit que vous aviez lu énormément de romans, d'archives historiques. Pour là, pour Porteur d'âme, c'était juste comme ça?
Non, c'est très différent. Je me suis intéressé à deux ou trois trucs pour Porteur d'âme, entre autres sur la NDE, c'est-à-dire la ou EMI, voilà, ou expérience de mort imminente, où on a cette espèce de description d'âme qui quitte le corps et tout ça. J'ai suivi ce processus-là, puisqu'il y a quand même plein de témoignages là-dessus et que je vais essayer de refaire un peu ces étapes-là. Je me suis documenté sur la brigade criminelle parce que je ne savais pas du tout comment ça fonctionnait, ces machins-là. J'ai trouvé des documents intéressants. J'ai même trouvé une conférence donnée sur Internet par un type de la brigade criminelle qui expliquait comment marchait sa brigade. Donc ça a été beaucoup moins compliqué que pour l'enjeu mineur. Surtout que l'enjeu mineur, il y avait une sorte de défi qui est de ne pas inclure dans le texte de mots parus après la date. Si on veut être logique.
Oui.
Donc là, ça demande une vérification presque constante des mots qu'on utilise. Et du coup, c'est un vrai travail sur la langue. Bon, là, dans Porteur d'âme, on n'a pas tout ça. Il y a un jeu différent avec la langue parce que c'est beaucoup plus moderne, donc il y a plus de liberté, il y a des jeux que je ne pouvais pas me permettre avec l'enjeu mineur, ni même avec l'espèce opéra ou mes autres bouquins, parce que quand on est dans le quotidien, dans le contemporain, et qu'on ne met pas en danger le lecteur, on peut jouer beaucoup plus avec la langue. Et c'est ce que j'essaie de faire dans toutes mes publications au Diable Vauvert, c'est d'avoir un rapport au langage différent. Après, c'est des expérimentations, ça plaît ou ça plaît moins, je ne sais pas, mais moi, c'est intéressant pour moi d'essayer d'explorer l'écriture sous des formes différentes, et le contemporain permet beaucoup ça.
Vous avez donc terminé votre trilogie sur l'enjeu mineur, c'est un projet, vous me disiez, qui vous avait tenu à cœur, puisque c'est votre région, etc. Qu'est-ce que vous en avez tiré, en fait? Est-ce que vous avez réussi à mettre tout ce que vous vouliez dedans?
Non, bien sûr que non. C'est toujours une frustration de finir un livre parce qu'on ne se rend compte que des choses qu'on n'a pas mises dans le livre. Et il y en a un paquet. Donc il a fallu faire des choix et puis les choix sont pas toujours... Enfin, c'est comme ça. On est obligé de... On ne peut pas aller aussi loin qu'on voudrait. Ou alors il faut faire comme Pierre Pelot, des bouquins de 800 pages. C'est ainsi que les hommes vivent. Bon. Donc, je l'ai fait. Je suis très content de l'avoir fait parce que c'était... Vous disiez ça me tenait à cœur, c'était quelque chose comme un c'est un peu idiot ce que je veux dire, mais ça fait rien, je veux dire quand même. C'est comme un devoir familial ou quelque chose, une sorte de mémoire, un hommage à mes ancêtres, à mes parents, à tout ça, à tous ces gens de la petite paysannerie vendéenne qui ont souffert, vécu, bon, etc. Qui ont pas toujours été bien compris, qui ont souffert de ça. Je sentais une sorte de traumatisme dans la région, traumatisme qu'il a exploité de façon un peu éhontée par des hommes politiques, que je ne citerai pas. Et c'était aussi ma façon d'apporter ma pierre à l'édifice. Et voilà, si je l'ai fait, je suis content de l'avoir fait. Je suis content, par exemple, que certains membres de ma famille aient pu lire celui-là et pas les autres, parce qu'ils n'ont pas envie de lire la science-fiction, ou ça leur fait un peu peur, et qu'ils aient pu entrer dans mes univers par ce biais-là. Donc, ça y est, l'expérience est faite, c'est bouclé, maintenant c'est derrière moi. Et il y a des frustrations, forcément, mais bon, je ne regarde plus maintenant, je suis sur d'autres projets. Ça m'a donné aussi envie de refaire des romans historiques, parce que j'adore ça, quoi. Finalement, c'est des contraintes, mais j'aime aussi travailler sous la contrainte. Et je pense que sur la langue, c'est très intéressant, quoi, parce que essayer de faire sonner la langue comme à l'époque, tout en la restituant dans son modernisme pour que les gens de notre époque puissent comprendre, ça c'est quand même assez passionnant comme exercice. Bon voilà, ça m'a apporté beaucoup de choses. J'avais peur de ce projet, maintenant il est fait. Et ça a ouvert des perspectives aussi. Et après, aussi, je me suis un peu lâché dans Porteur d'âme avec, en disant, voilà, je peux y aller franchement. Tout ça.
Justement, vos projets à venir, ou sur quoi vous travaillez actuellement?
Ouais, alors je suis parti sur comment on se refait pas, sur un space opéra type bien du silence, qui s'appelle La Fraternité du Panka, dont le premier tome devrait sortir en novembre à l'Atalante, et qui est un space opéra pur jus, avec plein de planètes, des vaisseaux spatiaux, des voyages, des civilisations. Il y aura 5 tomes dans cette série, puisque dans le titre c'est déjà indiqué, quoi. Parce que la fraternité du Panka, ça veut dire la fraternité du 5, parce que le 5, Panka c'est le chiffre 5 en sanskrit, ce qui veut dire que c'est une chaîne de 5 personnages qui se reconstituent à travers l'espace et le temps, et donc chacun des 5 personnages fera l'objet d'un livre, quoi, jusqu'à ce que la chaîne soit reconstituée et que le dernier de la chaîne est en lui la quintessence et la force des 4 autres. Vaste projet, ouais. Et j'ai fait ça avec passion parce que, du coup, l'expérimentation d'écriture dans Porteur d'âme et dans fait que je suis un petit peu moins coincé par l'écriture. Je suis un peu moins... Et donc je m'autorise des choses que je ne pouvais pas m'autoriser avant. Par exemple, des carnets de voyage. Un personnage qui se raconte par un carnet de voyage, qui raconte toute son aventure. Et donc, ça me permet d'alterner. J'ai vu ça aussi dans un bouquin de Jim Fergus qui s'appelle La fille sauvage, où il alterne, et je ne pensais pas que c'était possible, d'alterner la narration classique et le carnet de voyage, et les deux se répondant. Et ça, c'est assez passionnant à faire aussi, quoi. Donc, et en même temps, ça offre une souplesse d'écriture qu'on trouve pas forcément dans le space opéra, où on est vraiment très classique dans l'écriture. Donc je suis assez content de faire ce projet. Et puis j'ai plein de projets. Je fais une scénarisation d'un de mes bouquins pour la bande dessinée, Les Fables de l'Impur. Donc il va apparaître aux humanoïdes associés, puis divers petits projets à droite à gauche.
Pour vous retrouver sur internet, vous avez une page.
Ouais, je suis hébergé par une encyclopédie Nosphère. .org, qui héberge des sites. Donc j'ai un site d'auteur que malheureusement j'anime pas beaucoup, mais ça c'est vraiment de ma faute. Je prends pas le temps de le faire. Mais on peut m'écrire là, se tenir au courant de mes déplacements. De temps en temps je mets un petit édito, mais c'est pas terrible. Je reconnais que là je suis pas très fort là-dessus.
Ben, merci beaucoup et au plaisir de vous lire.
Ok, merci à vous en tout cas. Ciao.